Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Face à l'info, bonsoir à tous. En attendant le remaniement d'un instant à l'autre, le sommaire de l'émission ce soir. Et si le pays des libertés profitait des JO pour imposer une certaine restriction des libertés? Rumeurs de confinement olympique, restrictions de déplacement annoncées, mise en place de QR code. Ces JO ne sont-ils pas en train de piétiner nos libertés? Nos sociétés basculent-elles sans s'en rendre compte vers une certaine dictature? Qui pour s'en émouvoir? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Zoom sur le Salvador en Amérique centrale ce soir. Le président Bukele a été réélu avec plus de 85% des voix, plébiscité par la population. Pourquoi? L'homme a maîtrisé la sécurité et la criminalité. 496 homicides en 2022, soit 57% de moins qu'en 2021. Le président a rendu la vie impossible en prison à ceux qui la rendaient impossible aux autres. Ce système peut-il s'appliquer en France? Passer outre l'état de droit pour la sécurité de tous? L'analyse de Dimitri Pavlenko, le rêve de Mathieu Bock-Côté. C'est faux. La gauche et l'extrême gauche ne cessent de plaider pour une immigration pratiquement libre. Quelle trahison par rapport aux valeurs qu'elle entend défendre. Déjà, Marx refusait l'apport du travailleur immigré qui permettait l'exploitation de l'ouvrier français. Cette bataille tiendra jusqu'à Georges Marchais et l'emblématique Jean Jaurès lui-même se dressait contre une immigration sans contrôle, le regard de Marc Menon. Mayotte, département le plus pauvre de France, s'enfonce dans la crise sociale à cause de l'immigration incontrôlable. Les habitants n'en peuvent plus et dénoncent l'inaction de l'État. Barrages routiers, voitures brûlées, violences urbaines, affrontements entre bandes rivales, les forces de l'ordre sont dépassées, la violence n'a plus de limite. Y a-t-il une solution? Gérald Darmanin voudrait durcir le droit du sol ici. Pour ce département uniquement. Est-ce possible? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis bientôt les vacances scolaires. Vous travaillez et peut-être que vous confiez vos enfants à la maison des jeunes et de la culture à côté de chez vous. À Mérignac, près de Bordeaux, la maison des jeunes et de la culture a concocté un petit programme pour vos enfants de 11 à 15 ans. Un stage pour leur permettre de s'ouvrir au monde des drag queens. Des parents s'interrogent, lancent une pétition. Selon eux, c'est un programme pour adultes et pas pour les enfants. L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et ce matin. Un intrus parmi nous ce soir, il s'appelle Florian.
Merci, je ne sais pas. J'ai pas encore parlé.
Vous êtes le bienvenu.
En situation régulière, ce monsieur.
Mais ça commence à devenir régulier, mais c'est aussi la faute du gouvernement.
Montrez-nous vos papiers. Florian Tardif est avec nous ce soir, puisque d'un instant à l'autre, on devrait connaître le remaniement bis, la deuxième partie du gouvernement, du remaniement Attal, du gouvernement Attal. Quelles sont les informations avant tout que l'on a pour l'instant, mon cher?
On est en train de vous les communiquer à l'antenne. Alors, première information peut-être majeure ce soir, c'est que Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux au tout début donc du premier gouvernement d'Emmanuel Macron lors du premier quinquennat, deuxième gouvernement d'Emmanuel Macron lors du premier quinquennat, puisqu'elle a remplacé à la tête du ministère de la Justice, justement, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, François Bayrou. Elle a été pendant 3 ans à la tête donc du ministère de la Justice. Elle revient, entre guillemets, dans le jeu en prenant la tête du ministère de l'Éducation nationale, en lieu et place donc d'Amélie Oudéa-Castéra. Vous avez peut-être compris pourquoi, compte tenu des différentes polémiques successives qu'elle a elle-même alimentées ces derniers jours. Alors là, vous avez le curriculum vitae, entre guillemets, de Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, membre du Conseil constitutionnel, membre du Parti socialiste. C'est important parce qu'il y a assez peu de membres anciennement élus de gauche, qui étaient encartés à gauche au sein de ce gouvernement. Là encore, on en a parlé assez longuement ces dernières semaines. Beaucoup de noms, très certainement, que vous ne connaissez pas. Je m'adresse bien évidemment aux téléspectateurs. Frédéric Valtoux, qui était à la tête de la Fédération hospitalière de France, qui devrait qui devrait prendre le portefeuille de la santé.
Maire de Fontainebleau.
Maire de Fontainebleau. C'est vrai que, et on risque d'en parler ces prochaines heures, lorsque
Pourquoi
je vois ces toutes premières informations qui nous remontent, c'est un gouvernement très parisien. Ou très francilien, du moins.
La critique avait déjà été faite.
Marie Guévenoux, députée de l'Essonne, à la Questure, Guillaume Kasparian, qui est député d'Eure-et-Loire. Alors certes, certains d'entre eux, comme Guillaume Kasparian, qui est né à Marseille, maintenant est un élu francilien. Mais voilà, on reprochait ces dernières semaines le fait qu'il y avait de trop nombreux ministres qui étaient élus parisien, oui, de la petite couronne. La force est de constater que les critiques n'ont peut-être pas été prises en compte.
Donc ce sont les informations que nous avons pour l'instant.
Peut-être. Et ça peut peut-être expliquer, in fine, le coup de gueule, entre guillemets, de François Bayrou, qui dénonçait encore ce matin le parisiennisme du gouvernement actuel.
Alors justement, avant de continuer sur nos chroniques, une petite question à propos de François Bayrou. Que se passe-t-il concrètement? qu'est-ce que c'est que ce bazar par rapport à lui?
Écoutez,
pardon,
peut-être que certains d'entre nous qui nous regardent ont peut-être connu ça lorsque l'on invite, soit pour un anniversaire, soit pour un mariage, cet oncle un peu embarrassant qu'on n'aime pas trop, mais qu'on est un peu obligé d'inviter. C'était à peu près ça, c'est-à-dire que Gabriel Attal ne voulait pas de François Bayrou. François Bayrou s'est un petit peu imposé de lui-même, mais tout simplement parce que c'est aussi lui qui a fait basculer l'élection en 2017. C'est-à-dire qu'on l'oublie tout de même, puisqu'il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur François Bayrou ces derniers jours.
5%.
C'est grâce à lui,
oui,
tout de même, qu'Emmanuel Macron est arrivé à
pas
la
que,
tête
pas
de,
que,
de l'État.
Va...
Pas que,
oui, c'est
mais
ça.
Lorsque l'on analyse ce qui s'est passé fin février 2017, il y a vraiment une bascule lorsque François Bayrou rejoint Emmanuel Macron. François Fillon, à l'époque, alors n'est pas concerné par une enquête ouverte par le parquet national financier concernant ses affaires. Il est en tête. Et du jour au lendemain, Emmanuel Macron prend 4-5 points dans les sondages, François Fillon en perd 2, et il crée la dynamique. Et c'est ce qui permet à cela, et on sait très bien qu'en termes de campagne présidentielle et de campagne en général, la dynamique est extrêmement importante. La dynamique est créée à ce moment-là grâce à François Bayrou, il faut le rappeler, et ce qui permet à Emmanuel Macron, alors bien évidemment c'est pas le seul élément, mais ce qui permet à Emmanuel Macron tout de même d'arriver à la tête de l'État.
Alors d'après ce que j'ai compris, et mes petites informations, vous allez me confirmer ou pas, je mets votre regard, il paraît que François Bayrou, l'homme embarrassant du moment, Gabriel Attal ne voudrait pas de lui, donc effectivement au ministère de l'Éducation nationale, lui aurait proposé le ministère des Armées sans l'autorisation du chef de l'État, et que voilà, que finalement ce qui a gêné un peu Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
En fait, à un moment donné, selon nos informations, on commence à avoir quelques murmures de ce qui se passe en coulisses, de bruit justement de ces coulisses qui nous parviennent. Emmanuel Macron n'y croyait pas vraiment au fait que François Bayrou pourrait rentrer au gouvernement, tout simplement parce que François Bayrou a été très dur avec Gabriel Attal au moment de sa nomination. Il était contre, il a même freiné la nomination de Gabriel Attal, c'était il y a 4 semaines,
oui,
et Gabriel Attal n'a pas vraiment oublié.
Oui.
Et donc, il lui aurait proposé de prendre la tête d'une grande coalition de la majorité, tout simplement parce que Emmanuel Macron estime que ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir trois partis au sein de cette majorité, d'avoir Renaissance, d'avoir Horizon et d'avoir le MoDem qui pense peu ou prou la même chose globalement, et que ça serait bien, compte tenu de la puissance des deux extrêmes, que ce soit le bloc de droite et le bloc de gauche, qu'il y ait un bloc central assez puissant. Alors ça, c'est le rêve, le doux rêve peut-être que caresse Emmanuel Macron, et il aurait proposé à François Bayrou de prendre la tête de entre guillemets de ce large bloc centriste.
En tout cas, en attendant, le parquet, rien à voir, ou peut-être a fait appel de la relaxe de François Bayrou. Aujourd'hui, on va suivre, restez avec nous hein, pendant l'émission si on a des informations supplémentaires. Est-ce qu'on peut aussi annoncer le fait qu'Amélie Oudéa-Castéra garderait les sports et les JO?
Oui, je pense qu'on lui a, dit, pour pas qu'elle ne s'épanche dans la presse comme l'a fait ces dernières heures, François Bayrou, ne t'inquiète pas, tu seras sur la photo pour les Jeux Olympiques.
Merci pour votre regard. Ne bougez pas, restez avec nous, le mousquetaire intrus.
Et... Mais vous avez lu les trois mousquetaires, j'imagine. Donc on sait tous que D'Artagnan, alors que avant de lire les trois mousquetaires, moi je pensais que D'Artagnan était un mousquetaire. En fait, il faut attendre la fin du récit pour...
Oh là là, il nous a pas... C'est D'Artagnan,
voilà. Ah ouais. Non, c'est-à-dire qu'il était intrus jusqu'à la fin du récit.
Ma place est engagée.
Ah, c'était pour ça.
Vous aurez droit à un petit verre d'eau en guise d'accueil de la part de nos mousquetaires. On va avancer en attendant d'avoir des informations supplémentaires. Mathieu Bock-Côté, c'est une information parue il y a quelques jours, mais qui a suscité bien peu de commentaires, qui nous pousse vers votre premier sujet. On apprenait ainsi que le gouvernement a demandé aux particuliers de limiter au possible les livraisons de colis pendant les JO. Elle s'ajoute aux rumeurs de confinement olympique, aux restrictions annoncées de déplacement pendant cette période et à la mise en place d'un QR code, on en avait aussi parlé. Ces JO ne sont-ils pas en train de piétiner nos libertés et n'annoncent-ils pas une forme de dictature rampante pour nos sociétés? Et je rajoute, est-ce qu'on a la possibilité de s'en émouvoir?
Ben j'espère. J'espère. Alors, le mot dictature, je suis parfaitement conscient, il peut frapper heurter nos oreilles, mais je me place sous la protection de trois références récentes qui ont utilisé ce terme pour parler des temps présents. Michel Onfray, il y a quelques années, publie un livre qui s'appelle Théorie de la dictature, dont il cherche à voir comment le concept de dictature peut s'appliquer au temps présent. Antoine Bueno a publié tout récemment, autour de la question environnementale, faut-il une dictature verte? Autrement dit, c'est une question qui tourne en boucle dans le débat public. Et revenons assez longtemps à la crise sanitaire. Le slogan est tourné assez souvent pour qu'on entende même l'expression de dictature sanitaire. Donc je dis, utilisons ce terme tout en sachant qu'on parle ni de Pinochet, ni de Ceausescu, ni de Franco, ni de qui que ce soit. On voit que le terme a-t-il une pertinence aujourd'hui? La réponse est quand même un peu oui. Alors qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les éléments évoqués? Vous avez raison. D'abord, le contrôle de la circulation à Paris. Il faut simplement comprendre, Paris va être pendant quelques semaines, sinon quelques mois, un territoire quadrillé administrativement, quadrillé au nom de la sécurité. On comprend la raison, on nous dit c'est exceptionnel. Les JO, c'est exceptionnel. Le risque sécuritaire est plus élevé. Il faut assurer la sécurité de tous, d'abord des touristes, mais aussi à la rigueur de ceux qui y habitent, mais d'abord des touristes quand même. Donc, et pour cela, dans cette logique, on va quadriller au possible la ville. Donc le fait qu'on va gâcher la vie, ça a été dit à quelques reprises, des Parisiens eux-mêmes, de ceux qui habitent cette ville et qui devront, en certains lieux, se promener justement avec les codes d'autorisation, le fameux QR code dont on a souvent parlé, pour entrer chez soi, pour aller au restaurant, pour circuler en certains lieux. Donc, il faut simplement comprendre que dans sa propre ville, le Parisien, dans certains quartiers, pendant les JO, devra donner toujours le blanchiment administratif en disant « Regardez, oui, j'ai bien le droit de me présenter en ce lieu, j'ai l'autorisation. » Et ça nous rappelle le passage dont on parle souvent de la société de liberté à la société d'autorisation. Pourquoi la question des colis, des livraisons est plus importante qu'on ne le dit? Parce que la rigueur, effectivement, dans un monde normal, on pourrait se passer des livraisons des différentes compagnies de livraison que l'on connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous dit non seulement restez chez vous, bougez pas trop, ne circulez pas, mais par ailleurs, ne vous faites rien livrer. Là, ça commence à être un peu épuisant.
Ça commence à faire beaucoup, là.
Ce sont toutes sortes de petites vexations au quotidien. Donc, on s'entend, là, c'est pas l'URSS qui nous tombe dessus sur ce coup-là.
C'est le premier pas.
Mais à tout le moins, c'est une multiplication des contraintes qui deviennent étouffantes pour le commun des mortels. Le code du QR, je l'ai dit aussi, je pense que c'est l'élément le plus important à travers cela. Et ajoutons le fait qu'une partie de l'identité de la ville va être rabotée, la fameuse question des libraires, des bouquinistes en fait plutôt, du nom de la scène, au nom de pour transformer Paris en vitrine mondiale qui va cadrer avec l'exigence des JO mondialisés, eh bien ce qui fait l'identité de la ville, le propre de la ville, ça dégage, on n'en veut plus. C'est comme si on profitait des JO pour mener une forme d'opération hygiénique pour délivrer Paris de ce qu'elle avait en propre. On a parlé, l'expression était là, du confinement olympique. Le gouvernement nous a dit non, c'est pas un confinement olympique. Bon d'accord, mais c'est... Prenez l'ensemble des mesures que je vous ai présentées et utilisez le terme que vous souhaitez. Je comprends pourquoi certains utilisent l'expression « confinement olympique », même si on nous dit que ce n'est pas le cas. Ensuite, moi, ce que je redoute, là, l'inquiétude. Imaginons que c'est vraiment exceptionnel. Là. C'est exceptionnel, pas d'inquiétude, les amis. Sauf que ce que je redoute, c'est que chaque fois qu'un événement important risque d'arriver dans nos sociétés, eh bien la justification au nom de l'exceptionnel, d'une suspension généralisée des libertés, d'un contrôle social maximal, eh bien, ah, tel événement est exceptionnel, on suspend les libertés. Tel autre événement est exceptionnel, on suspend les libertés. Comme si les libertés devenaient non plus le fondement de nos sociétés, mais une forme de privilège qu'on accorde à nos sociétés lorsque les choses sont assez calmes pour qu'elles puissent être libres. De ce point de vue, évidemment, le moment de bascule que nous avons connu ces dernières années, c'est évidemment la pandémie. Je ne veux pas m'y attarder, mais qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Évidemment, c'était le basculement. Donc, on est passé de « vous êtes libre de faire ce que vous voulez » à « vous êtes libre de faire ce qu'on vous accorde le droit de faire ». Avec un moment où on célébrait, non seulement banalisait, mais on célébrait la délation. C'est-à-dire, vous serez vous-même le premier surveillant de votre voisin. C'était étrange comme moment. Et demain, moi, ce que je redoute souvent, je l'ai souvent dit, mais je pense qu'il faut le revenir sur cette question, le passeport climatique. Le passeport climatique s'en vient. Je note qu'en 2023, dis-je, dans le courrier international, on disait, en Grande-Bretagne, une étude est parue tout récemment, où on disait, le passeport carbone pour 2040, ça risque d'être inévitable. C'est inévitable, notamment pour les voyageurs, mais pas seulement. Je précise qu'en 2008, en Grande-Bretagne, cette idée avait d'abord déjà été soumise, mais réaction vive de la population, on l'avait laissée de côté. Donc l'idée d'un contrôle social maximal, où on suspend les libertés au nom du bien commun, et on nous explique que par ailleurs, c'est pas un confinement ni une dictature, ne vous inquiétez pas, c'est quand même une idée qui progresse.
Voyons les choses plus largement, Mathieu Bocoté. Avons-nous une bonne idée de ce que pourrait vouloir dire ce contrôle social étendu dans le monde de demain?
Ah oui, et ça peut être très, très, très tatillon et pointilleux. Je vous donne un exemple qui vient de chez moi. C'est il y a quelques jours, c'est une nouvelle toute fraîche. Outremont, c'est un quartier à Montréal, où j'habite par ailleurs. Et là, il y a un nouveau règlement municipal qui a été présenté. Si vous avez votre voiture, vous déposez votre épouse quelque part, ou votre mari, j'en sais rien, si vous laissez tourner, donc rouler le moteur, pendant plus de 10 secondes, votre moteur... Imaginez dans ce moment-là, eh bien là, on peut vous coller une contravention parce que vous avez décidé de faire du mal à la planète à travers cela. Non. Auparavant, c'était 3 minutes. Maintenant, c'est 10 secondes. Donc, imaginez que les policiers de Montréal sont là, vont se promener, vous dites « Oh, 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 mon gaillard, 14 secondes le moteur qui tourne, il faut payer la contravention, mon gaillard. » Alors là, donc il faut. Pourquoi je donne cet exemple-là? On pourrait s'en foutre théoriquement, mais peut-être pas. Parce que quand le législateur, quand le politique pense à ce type de détails dans le contrôle de la vie des uns des autres, c'est qu'on voit jusqu'où ils peuvent aller lorsqu'ils veulent notre bien et ils ont décidé de l'avoir. Je note, soit dit en passant, que dans les grandes villes dans le monde occidental aujourd'hui, la gauche radicale a souvent pris le pouvoir. On oublie à quel point les grandes métropoles occidentales sont le laboratoire de la gauche radicale ou à tout le moins d'une gauche radicalisée. Et là, avec une espèce d'inversion des rôles, la ville est particulièrement sévère envers les contribuables ordinaires qui paient leurs taxes, qui paient leurs impôts, qui acceptent de se laisser détrousser à la manière d'une volaille consentante hyper-fiscalisée. Mais au même moment, il y a une tolérance généralisée envers toute une série de marges qui font en sorte que nos villes sont de moins en moins habitables, de moins en moins sécuritaires, de moins en moins belles, même quelquefois, on voit des villes qui s'enlaidissent avec Paris. Donc, ayons cela à l'esprit. J'ajoute, pour donner des exemples des libertés qui régressent, j'en ai souvent parlé, je vais rapidement, la restriction de la liberté d'expression avec les lois contre la haine en Irlande. En Écosse, en France, interdiction de conférences, dissolution d'associations que le pouvoir juge potentiellement factieuses. Mais ça va encore plus loin. La revue Élément a publié dans son nouveau numéro un dossier sur la fermeture arbitraire des comptes bancaires des personnalités que l'on pourrait juger contestataires. Alors ça devient inquiétant. Fermeture arbitraire des comptes bancaires parce qu'on croit que vous pensez pas exactement la bonne chose. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que c'est un contrôle, une forme de dictature, entre guillemets, exercée par le privé. Et je donne ce dernier exemple qui est pour moi fondamental. 2023, aux États-Unis, n'oublions pas jamais cette maison, un type qui avait une maison connectée, là, une maison connectée, et il se fait accuser de racisme par le livreur de la compagnie qui fait la livraison parce qu'il avait mal entendu le message d'accueil. Eh bien, sa maison connectée, par l'entreprise...
Elle a été déconnectée?
Elle était bloquée, pas accès à sa propre maison pendant une semaine, parce que l'entreprise privée, prenant au sérieux l'accusation de racisme du livreur qui avait mal entendu ce qui avait été, eh bien, au final, ce gars a été enfermé en lui-même. Donc ça aussi, ça commence à ressembler à quelque chose comme une dictature.
Alors, une dernière question rapidement, autrement dit, à vous entendre, Mathieu, nous ne sommes plus une société de liberté, dans un pays de liberté?
Je pense que l'illusion de la post-guerre froide se décompose. On a cru avec la fin de la guerre froide que la démocratie libérale était assurée à jamais, c'était terminé, on n'avait plus à se préoccuper de nos libertés. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Elles sont en régression partout, au nom de l'écologisme, au nom du néo-féminisme, au nom du multiculturalisme, au nom de la théorie du genre, au nom de toute une série de raisons qui font en sorte qu'on piétine les libertés, qu'elles régressent sans cesse, et plus encore le régime, comme j'aime l'appeler, a tendance à diaboliser l'opposition, à la psychiatriser. Vous savez, en URSS, s'opposer à la révolution, être contre-révolutionnaire, c'est un trouble psychiatrique. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en désaccord avec le régime, vous êtes intolérant, vous êtes fermé sur l'autre, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes transphobe. Donc, la même logique de disqualification de l'opposition est là. Donc, on critique, et là, je termine là-dessus, on critique avec raison, et c'est la thèse de Nicolas Baverès, les empires autoritaires aujourd'hui. Il dit qu'il faut s'inquiéter des empires autoritaires qui naissent partout dans le monde. Il a raison. Mais il y a une autre partie de sa thèse qui me semble plus, moins vraie, c'est que nos propres démocraties n'en sont plus. L'empire autoritaire, nous l'avons chez nous aussi aujourd'hui. L'empire autoritaire qui comprime nos libertés, qui les piétine et qui en même temps détruit nos identités, c'est chez nous, nous le produisons nous-mêmes. Donc soyons très sévères envers les empires autoritaires de l'extérieur, mais n'oublions pas que lorsqu'on regarde nos propres sociétés, les libertés sont dans le plus mauvais état qu'elles le sont, je pense, depuis plusieurs décennies.
Peut-être une autre fois, je vous poserai la question, on se posera pour décortiquer le fait que la population observe, voit, subit, mais quel est son moyen de, pour réagir, sans aller peut-être vers une révolte,
évidemment.
Mais réagir, voilà, juste réagir par rapport à ce que tout le monde voit.
J'ai une théorie sur ça.
Ah, oulala.
Je vous la livrerai.
Mais sur quoi n'avez-vous pas une théorie, Mathieu?
Oui.
Suspense, comme dit Mathieu, suspense. On continue. Si vous avez des informations, 5e mousquetaire, vous nous dites. Hein. Dimitri, avec vous ce soir, passionnant également, direction l'Amérique centrale. Vous allez nous parler du Salvador, où le président vient d'être réélu de façon, comment dire, à la soviétique.
Triomphale.
Oui,
pas soviétique,
quand même.
Triomphale.
Oui, c'est l'expression, ouais. À 85%.
Triomphale.
Oui, mais à la soviétique quand même. 85%, c'est largement...
C'est une élection bidon, une élection soviétique. Là, c'est pas une élection bidon.
Il y a oui, mais les chiffres. Oui. Les chiffres,
ah bah,
les chiffres.
Le score est impressionnant.
Le score.
85%.
Ne me contredisez pas trop souvent.
Il y a un gars en réserve.
Oui, ce que j'allais dire, en 2002, pour le coup, oui, au second tour de l'élection présidentielle, on pourrait nous reprocher la même chose.
Oui, mais on ça, disait aussi soviétique. À la soviétique, c'est-à-dire bon, que c'est un score soviétique. Non, mais c'est un score soviétique. Alors, un véritable plébiscite pour ce jeune chef de l'État. Alors, il avait déclaré la guerre aux gangs, à l'insécurité, à la criminalité qui ravage ce pays, et c'est ce qui explique son score.
Je suis pas d'accord avec vous. C'est pas un score soviétique. Un score soviétique. Non mais j'insiste pourquoi. Oui. Parce que là, on
non, mais c'est
a
pas le but de la
un vrai triomphe démocratique avec quelqu'un qui certes prend ses aises avec la constitution de son pays, avec l'état de droit, mais démocratiquement, il accomplit la volonté populaire. Vous voyez, c'est ça qu'il faut.
Mais quand
retenir.
On arrive dans ces chiffres-là, en général, on dit que c'est un score à la soviétique
savez,
parce que ça n'arrive jamais.
Mais on peut satisfaire 85% d'un échantillon avec la politique attendue. C'est ça aussi que nous dit ce résultat-là. Alors. Il s'appelle Nayib Bukele. C'est vrai qu'il a un nom qui sonne pas très Amérique latine. Mm-hmm. Il a des origines en réalité palestiniennes, ce monsieur. Alors il est assez jeune, il a 42 ans. Résultat incroyable, vous l'avez dit. Et alors, c'est les résultats, c'est quoi? Vous avez certainement vu ces images qui ont circulé. Vous savez, c'est ces prisonniers, ces gangs sud-américains avec les visages tatoués, avec souvent des chiffres 13, 18 sur le visage. Ils sont menottés, ils sont en caleçon, ils sont assis par terre. On voit qu'ils sont terrorisés, les garçons, là. Parce qu'autour d'eux, il y a des gardes militaires très lourdement armés. Voilà, vous les voyez, ces photos. Et voilà. Et depuis 2 ans, le Salvador, voilà ce qui se passe, c'est que ces gens, qui sont des mareros, donc des gangsters, eh bien, ils sont aujourd'hui là, les victimes, entre guillemets, de la plus ambitieuse opération anti-gang du monde. Alors le Salvador, d'abord, c'est où? Ça fait partie de ce qu'on appelle, dans l'isthme de l'Amérique, hein, cette partie, vous savez, qui relie l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. On appelle ça le Triangle du Nord. C'est un ensemble de 3 pays. Vous avez Guatemala, Honduras et donc Salvador. Et ce Triangle du Nord, c'est l'une des zones hors guerre les plus meurtrières du monde. Vous avez un taux d'homicide absolument faramineux. Au Salvador, par exemple, vous étiez, quand Nayib Bukele se fait élire la première fois en 2019... 100 homicides pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, en comparaison, la France, on est à 1,5 pour 100 000. Donc
on va continuer, justement,
voilà, 75 fois supérieur à chez nous.
Les comparaisons, parce que peut-être qu'on a des leçons à tirer, nous, de ce qui se passe là-bas. On marque une pause et on revient tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec notre 5e mousquetaire. On en parle dans un instant du remaniement et les dernières informations, selon vous. Mais on continue avec vous. Dimitri, à propos de ce qui s'est passé au Salvador, où
le président a été réélu avec 85% des suffrages parce qu'il a réussi à faire baisser cette criminalité de façon surprenante.
Oui, oui. Alors évidemment, la criminalité en question, il faut voir de qui on parle, les maras. Donc si vous avez jamais entendu parler des maras, on parle de gangs qui comptent des centaines de milliers de membres dans une région de 25 millions d'habitants. C'est pour vous dire, vous en avez deux principaux. Vous avez la MS-13, Mara Salvatrucha, et l'autre, c'est la Barrio 18. Et ces maras, elles ont mis le Salvador en coupe réglée. Pour l'histoire, pour aller rapidement, en réalité, ces gangs salvadoriens, ils viennent des États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui avaient fui la guerre civile qui a ravagé le pays dans les années 80, où à l'époque vous aviez une dictature, un régime dictatorial qui était financé par les États-Unis, qui affrontait une guérilla marxiste. Vous voyez, c'était la guerre froide dans l'Amérique centrale. Les jeunes sont partis à Los Angeles se réfugier, et là ils ont adopté tous les codes en fait des gangs nord-américains. Voilà. Et donc en 92, quand la guerre civile s'achève, Bill Clinton, que fait-il? Il met tous ces jeunes gangsters, ces jeunes maras, mareros comme on les appelle, dans l'avion. Il les renvoie au Salvador, où là, évidemment, bah, écoutez, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ça métastase, hein. La métaphore du cancer, Nayib Bukele l'a d'ailleurs employé lui-même. Et donc, avec des méthodes, les tatouages, la pratique des tatouages, qu'on connaît bien des gangs américains, et l'ultra-violence. C'est-à-dire que les maras, on se démembre, on se décapite allègrement. Hein, on s'affronte, les gangs s'affrontent entre eux de manière très violente. Et ils prélèvent leur dîme sur toute l'activité économique du pays. Et donc, quand Nayib Bukele arrive au pouvoir, en fait, quand il se présente à l'élection présidentielle la première fois en 2019, il est un outsider politique. Il est très jeune. Les grands partis salvadoriens ne veulent pas tellement l'investir. Seulement, lui, va mener une campagne à la Trump, en réalité, voilà, en disant aux salvadoriens, moi, je sais ce que vous voulez. Vous voulez la guerre contre l'insécurité. Moi, je vais la déclarer, cette guerre. Et il va se faire élire. Et il va parvenir à faire s'effondrer cette insécurité contre laquelle tous les gouvernements avant lui avaient échoué.
Alors, quelle est sa recette? Comment procède-t-il? On se demandera dans un instant, est-ce que c'est applicable en France?
Oui, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que, là, évidemment, comparaison n'est pas raison. La France n'est pas le Salvador. Mais gardez quand même notre pays en tête, parce qu'il y a des leçons à tirer du Salvador. D'abord, que fait Bukele? Il confie à l'armée des tâches de police. Il leur dit, vous allez aller dans les quartiers qui sont à la main des gangs. Et c'est vous qui allez rétablir l'ordre. Vous voyez, on passe du pistolet au fusil d'assaut. Hein, on passe de la voiture de police au véhicule blindé. Vous voyez, déjà, il y a ça qui change. Mais après, fondamentalement, au départ, il reprend les vieilles ficelles de la politique salvadorienne, à savoir des politiques, des pactes qui sont passés en sous-main entre le pouvoir et les gangs, où en fait le pouvoir politique arrange des trêves entre les gangs en échange d'allègement des conditions de détention de ces mêmes gangsters dans les prisons salvadoriennes. Et alors ces prisons, vous savez, c'est un peu le symbole de l'impuissance de tous ces États. Vous avez forcément entendu parler de ces émeutes qui font 200 morts, 300 morts en Amérique centrale, et où l'État est complètement dépassé, parce qu'en réalité, ces prisons, elles sont co-gérées par l'État et surtout par les gangsters qui sont armés dans les prisons. Et en fait, l'État ne fait que veiller à ce qu'ils ne s'échappent pas tous en même temps, en réalité. Voilà, parce que, et voilà. Et donc, cette politique de négociation secrète du gouvernement qui arrange des trêves entre les gangs, les Salvadoriens, ils connaissent ça très bien. Il y a 10 ans, l'un de leurs anciens présidents de la République avait mené cette politique-là. Ça avait marché, ça avait fait baisser la criminalité. Et puis le président, il a écopé de 15 ans de prison. Et la criminalité n'a pas disparu. Au contraire, elle a reflambé. Et donc, c'est ce qui se passe. Ce qui arrive à Bukele, c'est qu'il va se rendre compte que cette politique de trêve, de négociation, ça ne marche pas. Le 27 mars 2022, en un week-end, vous avez 87 assassinats au Salvador. Vous imaginez, en France, 87 assassinats en l'espace d'un week-end. Et donc là, c'en est trop. C'en est trop pour les Salvadoriens. Et Nayib Bukele va vraiment prendre le taureau par les cornes et décréter une guerre totale contre les gangs. Il va faire adopter par le Parlement un régime d'exception. Alors, tenez-vous bien. Parce que là, ça fait évidemment bondir tous les défenseurs des droits de l'homme. Interdiction, suspension de la liberté de se réunir, du droit d'être informé des raisons de votre arrestation. Hein, vous êtes arrêté. Voilà. Et les arrestations, d'ailleurs, sont autorisées sans mandat judiciaire. Et ce sont donc les policiers, ce sont des militaires qui vous embarquent pour un oui, pour un non.
Pour faciliter l'arrestation.
Voilà. La garde à vue, elle passe à 15 jours, hein, pendant laquelle vous n'avez pas, évidemment, pas le droit de voir votre famille, ni rien, pas même un avocat. Et un numéro de téléphone est mis à disposition de la population. Il suffit d'appeler ce numéro pour dénoncer un tel ou un tel. Et vous êtes raflé, on vous embarque. Donc vous voyez, c'est très 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 excessif comme politique. Évidemment, les prisons vont très très vite se remplir. Donc Bukele va faire construire en urgence ce qu'il appelle un centre de confinement terroriste de 40 000 places. Vous savez combien il y en a de places de prison en France ? On est autour de 70 000. Donc imaginez une seule prison qui contient à peu près la moitié des prisons françaises. Voilà. Et donc 75 000 maréros vont ainsi se faire rafler et emprisonner en l'espace de 2 ans, avec un effet radical, c'est que le taux d'homicide qui était de 100 pour 100 000 habitants, il tombe en l'espace d'un an à 8 pour 100 000. Je vous rappelle, le taux d'homicide en France, c'est 1,5 pour 100 000. Donc, vous voyez, donc évidemment, il y a de graves excès, comme je vous l'ai dit, les détentions arbitraires. Il y a une part d'ombre aussi à cette politique, c'est que les chefs des maras, les patrons, eux ont obtenu des faveurs de l'État salvadorien, à savoir qu'ils ont été libérés sans extradition vers les États-Unis qui les réclamaient. Voilà. Mais les résultats, malgré tout, sont spectaculaires.
Alors, dernière question, c'est ce qui explique la réélection, justement, de ce président dimanche dernier.
Mais oui, bien sûr.
Ces chiffres-là.
Évidemment que c'est ça. Vous parliez d'un score soviétique, comme je vous le disais. Les salvadoriens, évidemment, ils voient bien les excès. Vous avez des gens innocents qui ont été raflés, qui sont morts dans les prisons. Et les salvadoriens, ça, le savent. Mais vous voyez, c'est un peu une leçon politique universelle. C'est que les gens préféreront toujours l'ordre au droit. C'est ça la leçon politique. Et donc, vous savez, il y a une influente revue américaine qui s'appelle Foreign Affairs, qui avait publié un papier qui avait beaucoup fait parler sur le thème de la récession démocratique de l'Amérique latine. Et Nayib Bukele est évidemment cité comme l'un des exemples les plus frappants de ces chefs d'État et de gouvernement qui prennent leurs aises avec l'État de droit, avec la Constitution. D'ailleurs, il a un peu le boulard, Nayib Bukele. Il se fait appeler le roi philosophe sur son compte Twitter.
Il y a de quoi quand même, franchement, avec ces chiffres-là.
Mais c'est intéressant. Le roi philosophe, c'est peut-être pas le mot.
Voilà, mais c'est indiqué dictateur du Salvador il y a quelques mois, vous voyez.
Oui.
Donc,
dictateur cool, il dit même.
Dictateur cool, oui, mais voyez, c'est intéressant. Il y a des coups de boutoir qui sont évidemment infligés à la démocratie salvadorienne, et il y a d'autres exemples dans le monde. Il fait école à l'Équateur, par exemple. On regarde avec grand intérêt ce qui s'est passé au Salvador. Mais voyez, les gens fondamentalement ne lui en tiennent pas rigueur. Voilà, le retour de l'État, finalement, ça va mieux aux salvadoriens que l'État de droit. C'est un peu la leçon qu'on peut méditer de cet exemple.
Merci beaucoup. Passionnant exemple. Et dans un instant, on parle de Mayotte avec Charlotte. On parlera de l'immigration aussi, comment la CGT et la gauche étaient plus anti-immigrationnistes que la droite. Oui. Aujourd'hui, on en parle dans un instant. Et on parlera des drag queens. Un petit stage pour vos enfants de 11 à 15 ans à Mérignac avec les drag queens. Mais auparavant, on fait un point sur l'actualité politique, puisqu'en ce moment même, on a des confirmations sur la deuxième partie du gouvernement Attal. On en est où, mon cher Florian ?
Il y a beaucoup d'inconnus. Je vais tenter de. Alors, il n'y a pas beaucoup d'inconnus par rapport aux informations qu'on a. Non, on a des informations
très
précises.
Mais est-ce que le communiqué officiel est-il tombé ou pas ?
Non, toujours pas. Et d'ailleurs, on en parlait durant la coupure pub. C'est-à-dire qu'il y a même des cabinets. Alors, ils sont assez nombreux, mais qui tentent de soutirer des informations aux journalistes, parce que certains cabinets sont dans l'attente justement de ce communiqué officiel. Et pour la petite anecdote, Christophe Béchu, lors du précédent gouvernement, lui-même n'avait pas été appelé pour qu'on lui dise que il restait bien à la tête du ministère de la transition écologique. Il l'a appris comme cela en regardant la télévision, comme bon nombre de téléspectateurs. Non, ce qu'il faut dire, c'est que Amélie Oudéa-Castéra paye entre guillemets ces différentes polémiques, je le disais tout à l'heure, qu'elle a alimentées. Elle est entre guillemets rétrogradée, puisqu'elle n'est plus à la tête du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques. Elle redevient ministre des Sports et des JO, puisqu'on lui a promis, vous comprenez très bien, qu'elle sera bien sur la photo aux Jeux olympiques, ce qui permet entre guillemets de ne pas avoir un ministre qui ensuite se répand dans la presse en expliquant qu'on a été dur au sein du gouvernement, que ces 3 semaines ont été compliquées, qu'elle n'a pas reçu de soutien. Peu ou prou ce qu'a fait François Bayrou ces dernières heures. Et c'est Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux, qui avait justement remplacé François Bayrou au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui devient la nouvelle ministre de l'Éducation nationale.
On risque très certainement. Il y avait eu des mots durs contre l'éducation, contre l'autorité, contre l'uniforme. Ça sera à
suivre.
C'est
pour cela. Et ça commence à ressortir justement ces archives. Oui. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, j'étais étonné.
Enfin une info.
Non, non mais j'étais étonné de cette nomination, mais je ne suis pas le seul, y compris au sein de la majorité. On est très étonné de cette nomination. C'est un peu incompréhensible. La seule chose qui peut l'expliquer, c'est qu'elle est très loyale. C'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, elle ne fera pas de vagues. Pour vous donner un exemple, je crois qu'en 2019, elle avait même accepté de réduire un tout petit peu le budget du ministère de la Justice. Voilà, donc quand on lui demande quelque chose, elle l'exécute. Et vous allez voir que peu ou prou, elle va revenir sur ses déclarations sur l'uniforme, sur l'autorité, etc., etc.
Très bien, on continue l'émission et puis on fera assez certainement, si on a le temps, encore un petit point. Si le communiqué tombe, en tout cas, vous nous dites et vous regardez, vous voyez toujours à l'antenne défiler justement les informations que nous avons à l'heure qu'il est. Marc Menon, la gauche et l'extrême gauche ne cessent de plaider pour une immigration pratiquement libre. Quelle trahison par rapport aux valeurs qu'elle entend défendre. Déjà Marx, je le disais en titre, refusait l'apport du travailleur immigré qui permettait l'exploitation de l'ouvrier français. Et cette bataille va tenir jusqu'à Georges Marchais et l'emblématique Jean Jaurès. C'est étonnant tout ça. Il faut s'en souvenir.
Bah oui, surtout que quand les voix ne cessent de tonner raciste, vous êtes un porteur de haine, vous êtes intolérable dans une démocratie, vous devriez disparaître. Voilà ce que l'on entend. Et les Zemmour, Marine Le Pen, qui sont au banc de la société, quoi qu'ils fassent. Alors, rappelons-nous cette grande histoire. Déjà, Marx, j'ai noté certains points. Le système capitaliste développe aussi les moyens de tuer plus de travail pour de faire en sorte que le salarié ait plus de travail. En prolongeant sa journée, en intensifiant le rendement, on remplace l'homme par la femme par l'adolescent par l'enfant et le Yankee par trois Chinois. Il conclut la concurrence déloyale étrangère. Et ça, c'est l'un des points essentiels de sa théorie. Comment donc le capitalisme ne cesse de manipuler les peuples en les mettant en concurrence? Alors il y a un personnage que j'adore, qui est d'une envergure intellectuelle exceptionnelle, Jean Jaurès. J'ai pas le temps de vous faire son portrait aujourd'hui. Sachez simplement qu'il est d'une extraction extrêmement modeste. Son père, c'est un cutéreux. Sa maman, Mérotte, il a un frère, c'est le gros, lui, c'est le roux. Et ce garçon se distingue à l'école. Il émerge alors qu'il est en haillon. Mais il y a un professeur, il y a un contrôle qui se fait inopiné. Et on découvre son talent, ce qui lui permettra de suivre le parcours scolaire qui le révèle. Et que dit-il, lui?
Ah.
Eh bien oui, c'est ça qui est important. On a un discours en 1895 à la Chambre. Pour un socialisme douanier. Pour un socialisme douanier. Il dit « Nous protestons contre l'invasion des ouvriers étrangers qui viennent travailler au rabais. Nous ne voulons pas que le capitalisme international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avilie par des salaires au niveau des pays où ils sont les plus bas. »
Jean Jaurès.
Jean Jaurès. Il va même plus loin. Il dit également, quand on achète, par exemple, du blé à l'étranger, il faut que ce soit l'État qui l'achète et qu'ensuite, on ait un prix fixé par l'État pour qu'il n'y ait pas de mauvaise concurrence avec nos cultivateurs, parce que sinon, eh bien, leur prix s'effondre. Voilà ce que dit le grand Jaurès, personnage mythique. Et c'est repris après la guerre. N'oubliez pas qu'il est assassiné le 31 juillet 1914 par Raoul Villain, qui d'ailleurs sera ensuite blanchi en quelque sorte, il n'ira presque pas en prison après la guerre. Et la CGT, quand elle émerge, eh bien, elle reprend les thèses. Le Parti communiste reprend les thèses. En 1926, on dit arrêtons cette exploitation du travailleur, cette concurrence impossible qui fait que, à chaque instant, nous n'avons plus les moyens d'obtenir un minimum d'amélioration du travail. En 1930, la chute, je dirais, du système capitaliste mobilise. Elle avait déjà mobilisé le cartel des gauches, et là, elle mobilise contre une société qui est la Société Générale d'Immigration, qui a été mise en place par le patronat, qui organise en quelque sorte une immigration qui ferait rêver certains aujourd'hui, c'est-à-dire l'immigration la plus libre qui soit. On fait venir, alors là, on envoie les bateaux pour qu'il y ait cette possibilité de l'exploitation des ouvriers. Tout cela se poursuit jusqu'à Georges Marchais. C'est-à-dire que Georges Marchais dit « arrêtons d'avoir ce dévoiement de l'ouvrier à travers cette concurrence des ouvriers ». Et il demande quoi aussi ? Il demande l'assimilation. L'assimilation comment ? Eh bien par l'alphabétisation. Ces pauvres bougres, on les fait vivre et on les fait venir et on leur donne rien pour qu'ils puissent un jour émerger, qu'ils puissent sortir de la servitude. Et qui va aller contre ça ? Eh bien c'est sous Mitterrand, les socialistes. Que disent-ils ? Eh bien ils disent, ces ouvriers non plus, il faut les assimiler. Mais au contraire, pour leur montrer notre bienveillance vis-à-vis d'eux, laissons-les exister selon leur religion, faisons en sorte qu'ils puissent s'épanouir selon leurs origines. C'est ça leur intégration. Et c'est là qu'il y a ce revirement, qu'il y a cet indigénisme qui monte, qui fleurit et qui conduit la gauche à renier tout ce qui était au départ, eh bien, son essence même pour un monde social qui puisse croître au niveau de la rétribution et également, je dirais, de la dignité. Quand on sait aussi qu'il renie dans le même temps l'anticléricalisme en voulant faire la place à l'islam, vive la gauche, mais où est-elle ? Elle a disparu.
Merci pour votre regard, Marc-Benoît. Il reste Marc.
Je suis un peu seul.
Est-ce que vous pensez à rendre la cravate ? Elle ne vous appartient pas.
La gauche ne respecte pas le droit de propriété.
Voilà, on partage entre camarades.
Elle est très jolie.
Julien. Julien Pasquier.
On l'embrasse. En tout cas, merci beaucoup pour votre regard, parce qu'on oublie effectivement la position de la gauche à l'époque. Et Jean Jaurès, effectivement, que la gauche applaudit. Dans un instant, on reviendra faire un petit point sur le remaniement si on a le temps. Mais Charlotte, il n'y a qu'un pas par rapport aux propos de Marc Menon, puisque la situation s'aggrave de jour en jour à Mayotte. Et ces dernières semaines sont particulièrement alarmantes sur une île française qui est à bout, complètement à bout. Qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Déjà, pour rappeler un peu la situation, Mayotte, c'est 374 km² et 450 000 habitants. Donc en termes de densité, bon, déjà en France, c'est évidemment la plus forte. Et même dans le monde, je pense que ça fait vraiment partie des densités les plus fortes en population. Et vous avez 77% de la population sous le seuil de pauvreté. Et on arrive à notre sujet, puisque la contestation se fait sur le terrain essentiellement migratoire. Vous avez 11 à 12 000 naissances par an, dont 75% de parents étrangers, et 80% des enfants actuellement scolarisés à Mayotte ont des parents étrangers également. Donc là, en termes de submersion, là, il y a vraiment pas d'autre mot. C'est impossible. Et vous savez par ailleurs qu'en 2001, il y a eu le début du processus de départementalisation de Mayotte, qui a été initié par Lionel Jospin, qui s'est poursuivi sous Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Et la question du département, c'est que c'est notamment le niveau de distribution des aides sociales. Et c'est une île très pauvre, mais vous avez quand même un PIB par habitant à Mayotte qui est de 9 500 €, c'est-à-dire 8 fois celui des Comores, et 25 fois celui de Madagascar. Donc vous voyez qu'en termes d'attractivité, vous êtes au maximum. Alors l'essentiel de l'immigration légale et illégale d'ailleurs est comorienne. On en avait parlé il y a quasiment un an maintenant, parce que c'était déjà extrêmement compliqué. Et vous avez une nouveauté d'immigration africaine cette fois-ci, ces dernières années. Donc vous avez une crise migratoire, économique évidemment, une crise de développement à Mayotte. Et la question de la sécurité qui s'ajoute, et là dans les revendications c'est très clair, d'autant plus que dans les violences, l'immense majorité, mais là c'est vraiment une immense majorité des interpellés et des personnes qui passent devant la justice sont étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou non. Donc les deux questions sont liées là dans la crise qui a cours. Et depuis 2-3 ans, donc je vous disais, il y a un mouvement originaire d'Afrique au départ de la Tanzanie, et vous avez une montée en puissance depuis 2018 de cette immigration africaine cette fois-ci. Alors le député LR de Mayotte, qui s'appelle Mansour Kamardine, lui accuse clairement l'État de s'être déchargé sur les associations pour gérer la question migratoire. Vous voyez qu'on est bien en France, hein, il n'y a aucun doute. En tout cas, dans la gestion, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, ces migrants, ils quittent par les côtes de la Tanzanie. Ils sont pris en charge, ils arrivent au large des Comores. Et là, depuis les Comores, ils prennent la route habituelle, si je puis dire, de l'immigration vers Mayotte par le biais des Kwassa Kwassa, hein, les fameux. Et donc les réseaux sont comoriens, parfois jusqu'en Tanzanie. Donc les Comores ne leur suffisaient plus. Ils vont chercher. Alors évidemment, les migrants africains, comme Comoriens d'ailleurs dans une certaine mesure, ils arrivent, ils demandent, donc ils arrivent de manière clandestine, vous savez, le jeu de l'immigration régulière, ils arrivent sans que personne ne leur ait demandé de venir, ni qu'ils aient demandé de venir, mais au moment où ils arrivent, ils font une demande d'asile, et donc là, ils sont considérés comme migrants réguliers, puisque pendant le temps de votre demande d'asile, vous êtes migrant régulier, puisque votre demande est en cours. Et vous avez 60% d'admis à la demande d'asile, 40% non, et tout le monde reste. On est toujours en France. Et tous visent la France à Mayotte. Évidemment, c'est la France qu'ils visent et non pas Mayotte, puisqu'ils rêvent tous de venir ensuite en Europe, en métropole et pourquoi pas ailleurs en Europe. Mais à Mayotte, il y a une particularité, c'est que vous avez un titre de séjour territorialisé. Donc l'État français délivre un titre de séjour à certains de ces étrangers à condition qu'ils restent à Mayotte, en dépit total de l'opposition des Mahorais à une immigration débordante depuis de nombreuses années. Et mi-janvier... Et on en arrive à la crise actuelle. Mi-janvier, les migrants africains, cette fois-ci, sont partis occuper l'unique stade territorial à Mayotte. Et le préfet a pris un arrêté, parce qu'ils sont quelques 2000 hein, quand même dans le stade. Et le préfet a pris un arrêté pour interdire et suspendre toute activité ou compétition sportive. Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Mahorais ont dit « ça suffit, en fait, c'est notre stade, ça commence à bien faire ». Et là, vous avez une crise qui a commencé, on va dire, il y a 3 semaines et qui n'a fait que s'envenimer depuis 3 semaines avec une violence inquiétante.
Inquiétante. Que se passe-t-il donc depuis 3 semaines? Est-ce que le mouvement s'épuise? Est-ce qu'il y a des réponses de la part du gouvernement?
Alors, initialement, les Mahorais, ils ont une revendication majeure qui est la levée de ce séjour territorialisé. En disant, en gros, ils s'adressent à l'État en disant « Vous voulez accorder des titres de séjour ? Bah, pas à Mayotte ». En réalité, et par ailleurs le renvoi des migrants illégaux, cette fois-ci dans leur pays d'origine. Et ça, c'est pas nouveau du tout sur les Comores, c'est une revendication qui revient souvent. Et ils demandaient là, dans cette crise-là, en plus, l'expulsion immédiate des migrants dans leur stade, en l'occurrence à Mayotte. Et la revendication, ça a mis un peu de temps à réagir, on va dire, du côté de l'État, en tout cas c'est ce qui se dit beaucoup à Mayotte, et l'île s'est retrouvée complètement paralysée par un mouvement qui bloquait notamment les routes et les approvisionnements. Donc le préfet à Mayotte a fini par décider de libérer certains axes de l'île qui étaient bloqués par les manifestants pour approvisionner les magasins, pour approvisionner et pour permettre surtout la circulation des services d'urgence qui ne passaient plus. Vous avez eu des morts parce qu'il était impossible d'aller jusqu'à eux. Et donc, il y a eu des blessés pendant cette intervention, on va dire, des gendarmes à Mayotte. Et là, le phénomène s'est amplifié, la colère a explosé, parce qu'ils ont dit, mais ça fait des années qu'on manifeste contre l'immigration et contre l'insécurité qui est immense à Mayotte, et là tout à coup on veut récupérer notre stade et il y a des blessés chez nous. Donc c'est vraiment ce discours du deux poids deux mesures qui a hanté ces manifestations, si bien que les manifestants refusent désormais de s'adresser au préfet et demandent l'arrivée d'un médiateur pour pouvoir régler la situation. Alors évidemment les gendarmes interviennent aussi sur les voyous et sur les coupeurs de route et sur l'insécurité à Mayotte.
Ils sont dépassés.
On découvre la même impuissance que parfois ailleurs. Et le but des manifestants, il est clair, bloquer, voire fermer les administrations de l'État et les associations qui permettent cette immigration et qui l'encouragent. Et donc on a eu par exemple ces derniers jours des grosses échauffourées devant le tribunal à Mayotte. Et alors pour répondre à la partie, est-ce qu'il y a des réponses du gouvernement, Gérald Darmanin devait se rendre à Mayotte au début de cette crise quand a explosé en métropole la colère agricole et donc Gérald Darmanin est resté en métropole. Emmanuel Macron, on annonce régulièrement qu'il va y aller mais personne ne sait quand. Et Gabriel Attal a demandé le 25 janvier dernier l'évacuation du stade, du fameux stade, et tout en promettant une loi Mayotte. Sans que personne ne sache exactement ce qu'il va y avoir dans cette loi, on dit que ça ne va pas régler la question de la constitutionnalité, donc la question du droit du sol, mais en revanche, on pourrait se pencher sur les questions économiques ou de développement, mais personne ne sait exactement ce qu'il y aurait dans cette loi Mayotte. Est-ce que l'annonce est faite pour patienter? Peut-être.
Alors, il y a quelques mois, nous avions déjà évoqué la situation à Mayotte, alors que Gérald Darmanin lançait l'opération que je ne peux pas citer pour
Wambushu.
Non, j'y arrive pas. Pour démanteler
la reprise.
Là, voilà. Pour démanteler les bidonvilles et faire repartir les migrants illégaux vers les Comores. Cela n'a donc finalement rien réglé.
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs La première, l'opération Wambushu, en effet, donc il s'agissait de démanteler les bidonvilles dans lesquels étaient beaucoup de Comoriens, notamment illégaux, avec toutes les questions. Hein, on retrouve les mêmes questions de laissez-passer consulaire, les mêmes questions de passage devant le juge administratif. On se souvient, ça avait fait beaucoup de vagues. Et le phénomène africain dont je vous parlais, qui est à l'origine de cette crise-là, était beaucoup moins visible. Il existait déjà, mais il était moins visible. L'idée de Wambushu, souvenez-vous, elle avait été soutenue par l'immense majorité de la population mahoraise, par tous les représentants élus de Mayotte, et la mise en œuvre a été beaucoup plus compliquée. Deux mois après le début de l'opération, il y avait une pacification visible, on va dire, dans l'île, et d'ailleurs Gérald Darmanin s'en était beaucoup félicité, mais depuis, il y a des réseaux qui ont réussi à se réorganiser, hein, vous savez la souplesse de ces réseaux, et par ailleurs, alors là, je n'ai pas réussi à avoir la vérité parce que j'ai eu tout le monde et tout est contradictoire, mais le député Mansour Kamardine, donc, qui est DLR et qui est à Mayotte, explique qu'au moment des émeutes urbaine en métropole, il y a des gendarmes qui ont été rappelés en métropole à ce moment-là et que ça a laissé un peu de vide, ce que Beauvau dément absolument en disant il y a toujours beaucoup de gendarmes à Mayotte. Je donne les deux versions parce qu'il était impossible de trancher entre les deux apparemment. Donc je vous tiendrai au courant si j'en apprends plus ces prochains jours. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'opération aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'a pas le succès escompté parce qu'on est passé sur un autre sujet, le fameux stade de foot. Donc là, on avait 2000 personnes à peu près. Je vous le disait, le 25 janvier dernier, Gabriel Attal ordonne l'évacuation immédiate du stade. Vous avez quelques irréguliers qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine. 40 personnes régulières, c'est-à-dire en cours de demande d'études de leur demande d'asile, qui ont été conduits en métropole pour libérer un peu. Et une centaine qui devrait, dans les jours prochains, ce que dit le préfet, revenir en métropole aussi. Et voilà, il reste un peu plus d'un millier aujourd'hui de personnes dans le stade, sans qu'on sache exactement. Et ensuite revient à ce que vous le disiez en deux mots, la question du droit du sol.
Et oui.
Dans la loi immigration 2018, alors c'était sur proposition d'un sénateur LREM de Mayotte, contre l'avis du gouvernement à l'époque. C'est quand même important de le préciser. Ça avait été un peu durci, c'est-à-dire qu'il fallait 3 mois avant la naissance de présence régulière sur Mayotte d'un des deux parents. Là, Gérald Darmanin dit il faut un changement de constitution et, je le cite, notre volonté est de faire en sorte que les deux parents doivent être français ou réguliers et que ce soit plus d'un an avant votre naissance. Simplement, Gérald Darmanin, au moment où il fait cette annonce, précise que comme il faut une réforme constitutionnelle, c'est entre les mains de Emmanuel Macron, qui, lui, n'a pas dit un mot sur ce sujet, en tout cas pas récemment.
Comme quoi, quand rien ne va plus, on revient à la réforme du droit du sol.
Ah oui, ça.
Ouais. Merci beaucoup pour cette analyse précise. Vous nous direz dans un instant, Florian Tardif, si Marie Guévenoux, qui est pressentie pour être ministre déléguée à l'Outre-mer, saurait prendre ce dossier en main. Parce que l'Outre-mer, on a l'impression que, honnêtement, que l'Outre-mer est abandonné. Mais on en parle, on essaie de terminer avec vous, Mathieu. À Bordeaux, Mathieu, la Maison des Jeunes et de la Culture a programmé dans le cadre des prochaines vacances scolaires là, de février un stage pour permettre aux jeunes de s'ouvrir au monde des drag queens. Faut-il s'en surprendre ?
Non, c'est la tendance lourde de l'époque que de chercher à déstabiliser l'identité psychique et sexuelle des plus jeunes pour les convaincre globalement d'embrasser la théorie du genre qui fait en sorte que chacun décide que son ressenti de genre est plus important que son sexe biologique qui est traité désormais comme une forme de... Le corps est une carcasse réactionnaire dont on devrait se délivrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut convaincre la jeune génération à travers des stages, des expériences, d'embrasser cette théorie du genre concrètement. Et de quelle manière, donc, on l'a dit, un atelier pour les jeunes de 11 à 15 ans. 11 à 15 ans pour les initier au monde des drag queens. De quelle manière? Drag queen, je le rappelle, c'est les hommes qui se déguisent en femmes, hypersexualisés. Ça appartient au monde de la nuit. T'sais, normalement, la drag queen, on la fréquente davantage à 2 heures du matin dans un cabaret un peu étrange que dans la vie concrète des enfants de 11 à 15 ans. Je dis ça, mais vous savez, moi, je suis très réac. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce jeune de 11 à 15 ans?
Petite parenthèse, à quel âge vous avez vu une drag queen pour la première fois?
À la télévision, oui. Déjà, pour commencer, oui. Et récemment.
Oui. Non, mais c'est vrai.
Ah non, c'était pas à Montréal.
Ah oui, ah oui.
Bravo.
Et vous, évidemment.
Et vous initiez.
J'ai jamais posé la question, donc je ne saurais pas vous répondre. Non.
Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, hein? Un petit, que ça, on lui prête le nom qu'on veut, il y a 12 ans. Eh ben, il doit prendre un nom de drague. Ça peut être Barbara. Barbara. Pourquoi? Parce que le nom d'une drague de queen très connue à Montréal, je le précise.
Ah, oui,
bien sûr. Barbada, pardon. Un genre. Donc, choisir son genre, un code. Mais aussi, il faut réfléchir dans le cadre de ce stage sur le genre. les codes, les stéréotypes et comment on joue la drag queen, donc comment on déconstruit sa propre identité sexuelle. Ça va encore plus loin, il faut apprendre à développer, à défiler avec les talons appropriés, hein, parce qu'il faut quand même se comporter en drag queen de luxe, et il faut développer le regard approprié. Alors, juste qu'on soit clair, 11 à 15 ans, regard approprié pour des enfants, donc c'est de l'hypersexualisation des enfants, là, on s'entend. Le regard approprié d'une drag queen, normalement, c'est fait pour exciter les gens dans la salle. Or là, on dit ça, hein, une gamine de 12 ans, soit la drag queen excite les gens avec le regard approprié sur tes talons hauts et en même temps déconstruit ton identité de genre. Devant tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Et pourtant, c'est banal. Pourtant, c'est ça la norme aujourd'hui. C'est nous, les... moi, je suis devant cela, moi, je suis scandalisé, mais je suis, en ces matières, un fossile. Je suis un fusil Lebel au temps de la révolution technologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on nous dit de l'objectif, il faut déconstruire généralement l'identité de genre des enfants. C'est présent à l'école, c'est un objectif. Et les parents s'y opposent en passant une pétition. Et que disent les parents? Mais pourriez-vous ficher la paix aux enfants, s'il vous plaît? Mais eux aussi sont réac.
Alors, cette controverse, Mathieu Bocoté, touche à la question de l'identité de genre, vous le disiez. Une controverse semblable passionne aussi les Canadiens. Alors, rappelons qu'il y a une pétition, hein, vous l'avez dit,
oui.
Pour Bordeaux, Mérignac et les Canadiens.
Ça se passe en Alberta, qui est une province dans l'ouest du Canada. La première ministre, Danielle Smith, a dit légiférer pour limiter les opérations de changement de sexe définitive et irréversible chez les mineurs. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il dit? Interdire la chirurgie de changement de sexe pour les personnes de 17 ans et moins. Interdire les inhibiteurs de puberté et l'hormonothérapie au fait d'une intervention chirurgicale pour changer de sexe pour toute personne de 15 ans et moins, à moins qu'elle ait déjà commencé la procédure. Aussi, les élèves de 15 ans et moins qui souhaitent changer le nom de pronom à l'école devront d'abord obtenir le consentement parental. Ça, on est proche du fascisme. Et par ailleurs, les élèves de 16 ans et 17 ans n'auront pas besoin du consentement parental, mais les parents vont être informés. Et participation limitée pour les transgenres masculins au sport féminin. Devant tout cela, donc, qu'est-ce qu'on voit? Elle nous dit, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, il s'agit seulement de protéger les enfants. C'est-à-dire qu'il est normal qu'un adolescent se questionne sur son identité. Mais normalement, on se questionne en se disant, est-ce que je porte une casquette ou non, la chemise ou non, déboutonnée ou non, chemise bleue, chemise verte. Là, c'est pas ça du tout. On pousse la jeune génération à travers une forme d'activisme idéologique très présent sur les réseaux sociaux. On les invite à changer de sexe, littéralement. Notez qu'on appelle ça des opérations d'affirmation de genre plutôt que de changement de sexe. Parce que le ressenti est plus important que la vérité anatomique. Quoi qu'il en soit, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, s'y oppose. Il voit une attaque contre la communauté trans. Quant à moi, c'est ma petite prédiction. Si un jour, vous vous opposez à ce que votre enfant change d'identité de genre et change de sexe à l'âge de 13 ou 14 ans, eh bien, on vous accusera très probablement, j'en suis certain, de maltraitance parentale. Et ce que l'on critique à travers ça, c'est l'autorité parentale qui doit tomber devant l'autorité des activistes du genre radicaux.
Et si je ne me trompe pas, en Écosse, on est menacé de 7 ans de prison.
Mais bien sûr, ça progresse partout.
Merci.
La société va bien.
La société va bien. Restons entre nous, là, juste comme ça. On a l'impression que là, ça va encore. Un dernier point pour terminer cette émission sur le remaniement. Est-ce que le communiqué officiel est tombé? Toujours pas tombé.
Mais ils attendent peut-être qu'on ait la liste complète sur CNews pour pouvoir la communiquer, parce qu'on a quasiment la liste complète.
Alors, CNews a la liste complète et vous avez 1 minute 30 pour nous la rappeler.
Non, mais on retient tout d'abord le fait qu'Amélie Oudéa Castéra récupère son poste d'origine, n'est plus à la tête du ministère de l'Éducation nationale et rétrogradé entre guillemets et devient ministre donc en charge des sports et des Jeux olympiques. C'est oui. Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui récupère ce portefeuille. Donc elle devient la nouvelle ministre de l'Éducation nationale.
Rappelons qu'elle a été professeure, proviseure.
Elle a été professeure, elle a été effectivement à la tête notamment de l'Académie de Limoges, il me semble, de Toulouse, ancienne membre du Conseil constitutionnel, etc. etc. Donc, et ce qui est à noter, tout de même, puisqu'il y a énormément de ministres de gauche qui ont été débarqués, qu'elle est issue de la gauche, du Parti Socialiste. Elle a été adhérente au PS, je crois, pendant une trentaine d'années, entre 1983 et 2013. Sinon, il y a énormément de députés macronistes qui font leur entrée. Quand je dis macroniste, c'est Renaissance, Horizon ou Modem. À citer, par exemple, Marie Guévenou, Marina Ferrari, Frédéric Veltoux,
à l'Outre-mer,
Guillaume Gasparian. Donc voilà, c'est peut-être des noms qui ne vous disent rien, mais ce sont des fidèles. Non, mais on a Tout à l'heure, on parlait de Nicole Belloubet, qui est même un choix qui a surpris, y compris au sein de la majorité. C'est vrai que des inconnus remplacent des inconnus. Il y a peut-être certains sortants que vous découvrez également, vous qui nous regardez ce soir. Mais ce qu'on peut noter, c'est que la loyauté a été récompensée ce soir, puisque Nicole Belloubet était très loyale lorsqu'elle était donc à la tête du ministère de la Justice. Et peut-être, et on en parlera très certainement, ce qui est à noter également, c'est que Sabrina Agresti-Roubache, qui était secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville, récupère un portefeuille, celui de l'intégration. Et c'est intéressant, puisque il faut remonter à l'époque de Nicolas Sarkozy pour avoir un grand ministère de l'intégration et de l'immigration.
Il faudra suivre tout ça. Merci, notre cinquième mousquetaire du soir. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à tous. Tout de suite, Pascal Praud pour l'heure des ponts 2. Merci à tous.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.